Scrivens O, Scrivens A.
Cette émission se propose d'interroger les processus de création littéraire et poétique. Ce mois-ci, c'est la Brésilienne Samantha Chuva, notre invitée. Elle évoquera tour à tour le rapport à la voix dans l'écriture, le métissage des langues françaises et portugaises comme principe créatif, avec un focus sur le recueil Boîte de Pandora qui paraîtra prochainement, mais aussi l'évocation de la revue Oito ou 80, qu'elle a créée en 2023 avec l'autrice Eléa Thérode. Bonjour Samantha.
Bonjour Marie, merci beaucoup pour cette invitation.
Merci pour cet entretien. D'abord, nous avons commencé à échanger par téléphone et tu as évoqué quantité de choses, dont ton métier d'animatrice d'atelier d'écriture, celui d'autrice, mais aussi ton travail avec la voix dans la continuité justement des entretiens que je venais de mener avec les slameuses et ou orateurs comme JP, Kamikaze, Tristan Trève. Donc, ma première question est la suivante. Comment travailles-tu lorsque tu écris tes textes ? Tu écris à haute voix ? Peut-on dire que tu écris avec ton corps à ce moment-là ?
Alors, c'est très intéressant, puisque j'écris pas forcément à haute voix, mais je passe toujours par une lecture à haute voix à des moments précis. Je me suis rendu compte très récemment en lisant mon dernier manuscrit que j'arrivais pas à lire et qu'en fait j'avais besoin de m'adresser à quelqu'un. Et il y a eu des morceaux que j'ai lisés à des amis, à ma famille. Et en ayant ce retour à haute voix, en m'écoutant à haute voix, ça a un peu changé ma perception du texte. Les liens du corps, il est très présent, puisque déjà, quand j'écris, j'ai besoin d'un son. J'ai besoin d'une chanson, d'une musique qui se connecte au texte que je suis en train d'écrire, qui donne l'ambiance. Donc ça passe vraiment pour cette répétition même de la musique qui laisse mon conjoint fou, puisque je la mets en boucle et il ne peut plus. Mais j'ai besoin de ces supports pour me reconnecter avec ce que je suis en train d'écrire. Il y a des moments où j'ai reproduit les émotions de mes personnages dans mon visage. Donc, si j'ai dit qu'il a grincé les visages, je les grince mon visage pour voir qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Donc, ça passe beaucoup dans ce sens-là. Comme je te disais tout à l'heure, la voix, pour moi, c'est très, très ample, puisqu'en plus, comme je suis étrangère, il y a quelque chose de niveau de l'accent qui me vient aussi quand je lis mes textes à voix haute et qui me donne d'autres perceptions de mon propre texte et qui me donne une autre perception du contexte. Ça donne une autre intonation quelquefois. Je travaille ça beaucoup dans les ateliers d'écriture aussi, on reparlera peut-être plus tard, mais c'est présent, mais c'est pas quelque chose que je l'ai construit consciemment. C'est pas quelque chose qu'au début j'en avais besoin. Aujourd'hui c'est très très présent naturellement dans ma création. Et je trouve que ça soulève de l'invisible, des choses qu'on a écrites, qu'on ne s'est pas rendu compte, des choses qui sont présentes et qu'on n'a pas mis volontairement, et qui finalement, ça revient, ça nous fait questionner. La façon comme on lit les textes aussi, ça change beaucoup. Moi et Léa, quand on construit les ateliers d'écriture et la revue qu'on fait ensemble, la revue d'exploration littéraire, qui est la 8 ou 80, on a souvent ce rapport de la voix, puisqu'on lit les textes une de l'autre. Donc il y a des fois qu'elle lit mes textes, et c'est surprenant de voir comment mon texte, il gagne vie dans sa bouche à elle, dans son intonation, dans les points qu'elle met, où elle met l'accent et tout, et l'inverse, de découvrir son texte dans ma voix.
Mauvaise traduction. Mauvais traducteur insaisissable, mystérieux, poétique. Faisant lui-même écrivain. Transmission inexacte d'un contenu inessentiel. Servile les lecteurs. Ce n'est pas à cause de lui qu'existe suffisamment poésie.fr.
Instant inoubliable, souvenir de Dieu. Création de langue doit être essentielle. Si bonne soit-elle, jamais rien signifier.
Éclair.
Faut comprendre les idées de vie qui règnent sous sceptre débile de l'âme.
De là naît la tâche la plus vaste, grand nouveau d'art, l'artiste.
Poésie.existence. Vie et finalité. Manifestation de vie finalisée. Traduction finalisée.
Poésie. Rapport intime entre langues, impossible de révéler, impossible de produire, réalise un germe, germe de sa restitution. Rapport envisagé, très intime entre langues.
Les langues ne sont pas mutuellement étrangères. En vérité, doit procéder une exa-pensée.
Postmaturation. Tendance de la langue vaine de disparaître. Poésie.fr. Voix condition générale d'utilisation.
Faible pensée. Coup de plume défunte. Traduction. C'est le destin de disparaître, de langue morte, que parmi toutes les formes de paroles étrangères. Vague ressemblance entre copie et original. Repose bien. Je dédie cette traduction aux fruits et sa peau, manteau royal aux larges plis. Inadéquate, forcée, étrangère. Préjugé tradition. La langue vraie.
Poésie.fr. Formule que les mots transportent, s'est laissé violemment embraser par la langue. Étrangère, monstrueux danger originaire, les silences.
Mais en fait aussi, moi j'ai fait la lecture de mon texte, elle fait aussi la lecture de son texte, donc ça devient des textes très vivants, je trouve. Et en même temps, c'est quelque chose de totalement différent parce que l'écriture, c'est. D'un côté, elle est faite pour être lue et pas entendue, mais il y a aussi l'écriture qui est faite pour être écoutée et entendue. Et l'écriture qui est des bases n'était pas faite pour être écoutée, elle se transforme à l'écoute. Elle devient quelque chose d'autre, elle gagne d'autres formes, elle gagne d'autres frontières, d'autres paradigmes. Bref, je peux vraiment parler des heures, je t'en avertis.
Mais est-ce que tu es amenée à faire des scènes ouvertes où tu lis tes textes?
Alors oui, en fait des lectures, j'anime des lectures. On s'organise avec Eléa pour faire une lecture des textes de la revue et en réfléchit un peu comment le faire. Je fais des rencontres d'écrivains pour les gens qui veulent écrire ensemble sur leur propre projet et rencontrer d'autres écrivains. Et en fait, là, en ce moment, avec Elia, on réfléchit un peu comment on pourrait faire ça d'une façon plus interactive parce que je pense que la lecture publique, donc à voix haute, elle vient pour ajouter quelque chose de plus. Donc on imagine un peu comment les faire. En tant que danseuse, puisque je le suis aussi, je fais quelquefois. Je ne l'ai pas fait public encore, je l'ai fait sur mes réseaux sociaux, mais j'essaye de transformer les textes en mouvement, puisque la danse, c'est une construction d'un texte en mouvement, en fait. Et du coup, j'adapte mes textes dans les mouvements et je fais un peu les parallèles entre les deux. Mais ce n'est pas encore des scènes publiques, je n'ai pas encore l'opportunité de les faire comme ça. Mais voilà, je pense à des choses comme ça. Il y a une exposition que j'aimerais bien faire, inspirée de mon recueil des poèmes qui sera publié là prochainement, Boîte de Pandora, où il y aurait des voix, des gens qui parlent, qui lisent les textes en voix différentes. Et ça vient. J'aimerais travailler avec une danseuse pour justement mettre ces textes-là dans les corps, puisque ce sont des textes qui parlent beaucoup de corps. Donc, il y a un lien qui vient de ça. Je ne sais pas si je le rends directement en bas des Pandora, mais...
Mais en fait, je m'interrogeais sur le fait que tu sois brésilienne, mmh. Et donc que tu parles le portugais, et que justement, ces deux langues que tu manies aussi bien t'amènent à explorer la voix comme moteur pour écrire, ou comme retour de lecture de l'autre, en l'occurrence, Eléa.
Oui, alors ça, c'est très intéressant, c'est que comme je commençais à écrire en français, Et au début, j'ai du mal à me positionner dans la langue parce que je pense qu'il faut, il faut une liberté, une autorisation, s'approprier de la langue, l'apprendre pour soi. C'était à ces moments-là que je commençais à faire des textes un peu mélangés entre les Français et les Portugais, et principalement que je commençais à faire des expérimentations sonores dans l'écriture, que j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc j'ai une collection des textes sonores qui me posent beaucoup de soucis puisqu'ils ne sont pas traduisibles, justement, parce que tout l'enjeu du texte, c'est l'écoute. C'est pas du tout un texte qui est... Il est intéressant à la lecture, mais il est intéressant à la lecture à voix haute. Et en fait, c'est vraiment avec l'écriture franco-brésilienne qui ça a venu. En fait, les retours des autres, en fait, ça m'a aidé à m'autoriser plus dans cette langue, je pense. Puisque j'ai voyé que j'avais quelque chose à ajouter avec mon accent. Et avec mon accent, je veux dire mon accent oral, mais aussi mon accent à l'écriture, puisque j'apporte quelque chose de différent dans la langue française et que je m'y tiens à les garder. Parce que mon objectif, c'est vraiment de mettre un peu de portugais dans la langue française, un peu de français dans la langue portugaise, de les mélanger un peu.
La plage ferme. Elle marche comme une algue, portée sur l'aile d'une vague, jusqu'au rivage, toute la plage ferme. Ah, porque eu tô tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? A beleza que existe e a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse, se elle marche ou se elle danse, o mundo inteirinho met toute la plage faite e fica mais lindo e ne voit que la mer. Nul ne sait ce qu'elle pense quand elle passe sur le rivage, se enche de grâce et toute la place fait pour causa do amour.
Est-ce que ça veut dire mettre des mots portugais dans la langue française ou bien de la culture portugaise dans l'histoire que tu es amené à raconter? Ou les deux?
Il y en a des tout. En fait, ça dépend du sujet. Par exemple, à Pandora, il n'y a pas forcément une culture, mais peut-être, puisqu'il y a beaucoup de sentiments dans la langue brésilienne. Mais j'apporte des mots en portugais. Il y a des moments, j'ai déformé la langue française. Il y a des moments où j'ai déconstruit la syntaxe pour que ça soit une syntaxe de la langue portugaise. Donc en fait, quelquefois, je parle en français comme je les parlerais en portugais. Donc j'essaye de déconstruire quelquefois des lignes sacrées de la langue française en essayant vraiment de la détourner, de voir jusqu'où on peut aller en détournant la langue, jusqu'où je peux faire les Français parler portugais et vice-versa. Je fais plutôt ça en français qu'en portugais, j'ai vu. Mais voilà, il y a des créations des mots en français. Donc je trouve que c'est absurde qu'on n'a pas les mots graturage en français ou des gratures. Donc j'ai dit que j'ai une grature, genre je me tiens à créer dans la langue avec beaucoup plus de liberté que je pourrais faire en portugais, parce qu'il me manque quelquefois des mots.
Alors moi j'avoue, grature, est-ce que tu peux définir
l'acte de se gratter, genre on a une démangeaison, ça, je pense que ça sera les mots les plus utilisés, mais je le trouve très médical. Et en fait, quelquefois, on a une gratture, ça gratte, il faut les gratter, il faut y aller, aller dans ce sens-là. Donc, ça fait partie des mots, des listes des mots que je l'invente et que j'impose à la langue et que ça fait vraiment partie de mon vocabulaire. Je l'utilise vraiment.
Donc, j'avais envie de parler de la boîte de Pandora. Est-ce que justement, il a été publié aux éditions...
Alors là, il va rentrer en pré-vente dans les prochains mois. Je n'ai pas encore la date, mais il vient de m'envoyer la maquette et tout. C'est une maison d'édition qui s'appelle Caravan. C'est une maison d'édition brésilienne. Et j'étais en négociation avec d'autres maisons d'édition ici en France. Mais finalement, je pense que je ne vais pas faire avec eux pour d'autres questions. Donc, je continue à chercher encore une maison d'édition en France. Puisque c'était, et ça c'est très intéressant, c'est un texte qui était construit bilingue. Donc il était fait en portugais et après je l'ai traduit, mais en même temps il y avait des moments déjà qu'il était fait en français et du coup je l'ai traduisais en portugais et en français en même temps. Et à partir de la traduction, ça déformait les textes, ça devenait d'autres choses. Puisque l'auto-traduction c'est vraiment une découverte, c'est un sujet qui me passionne. Parce que je me permets beaucoup. Je me donne beaucoup de liberté, différemment d'une traduction qu'on ferait d'un autre écrivain. Moi, j'essaie exactement ce que je veux donner dans cette langue d'accueil, qui est dans l'occasion les Français. Donc, en fait, je me permets de modifier. Et vu que Boîte et Pandora, c'était... Donc, Boîte et Pandora, c'est une collection des poèmes sur des sentiments qui invitent, en fait, les lecteurs à identifier les sentiments dans leur corps. Et ça passe par mon corps et par où sont les sentiments dans mon corps. Donc est-ce que l'anxiété, elle est dans la poitrine? Est-ce que la peur, quelquefois pour moi, elle se manifeste dans les pieds? Je l'ai découvert. La créativité, pour moi, l'inspiration, peut-être qu'on va parler de ça, c'est une sensation dans les yeux. Donc j'essaie d'ancrer ces sensations dans les corps. Et du coup, en faisant la traduction, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient, puisque je parle des sentiments... Et j'ai une sensation différente en portugais du français. Donc, il y a des sentiments. La solitude, c'était un texte au début que je l'ai écrit et qu'il était, avant qu'il devienne un poème, c'était un texte et il était en troisième personne. Et quand je l'ai passé en français, il est devenu un texte en première personne. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une solitude différente en français pour moi. Puisque j'étais en France, puisqu'il y avait tout un contexte très particulier, j'étais dans un autre pays, dans une autre langue, dans une autre culture, je commençais des zéros. Ça fait seulement 6 ans que je suis en France.
D'accord. Et c'est ce qui a interpellé la maison d'édition, c'est justement le traitement par la langue, par deux langues, de sentiments qui du coup deviennent des sentiments légèrement différents, nuancés, qui réagissent avec certaines parties du corps. Est-ce que c'est ça qui a intéressé la maison d'édition?
Ce qui intéresse, je pense que c'est vraiment cette interrogation des « où c'est ça pour moi ?» et de se rendre compte que les sentiments, ce n'est pas quelque chose qui plane dans un monde intérieur seulement. Justement, il est présent et il se manifeste. Et comment c'est pour moi, ce n'est pas la même façon que comme c'est pour une autre personne. Il y a aussi, ce sont des textes illustrés, donc il y a aussi cette côté d'essayer d'attraper les sentiments et qu'en fait, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais on n'arrive pas forcément parce qu'à partir du moment où on est des êtres qui ont beaucoup de sentiments, ça voyage dans tout le sens, donc on a quelquefois plusieurs sentiments à la fois et quelquefois on a même du mal à transcrire quels sont les sentiments qu'on a. Et principalement, identifier qu'est-ce qu'on sent, ça c'est vraiment un parcours qui m'a pris des années à y arriver. Donc je pense que c'est surtout cette proposition d'avoir une boîte de Pandora, et c'est pour ça que ça s'appelle une boîte de Pandora, c'est ouvrir sa propre boîte et se reconnaître, se connecter avec ses sentiments. Je pense que c'est ça. Je pourrais pas dire parce qu'il faut que la maison d'étudiants réponde à ma place, mais pour moi en tout cas, c'est que je trouve que c'est génial de ces textes, c'est vraiment à partir de l'observation de l'autre, c'est poser la question, mais pour moi c'est comment, il est où, et c'est où la peur. Moi j'ai dit ça, ça m'a étonnée, à chaque fois que j'ai la peur, j'ai un frisson dans les pieds. Ça m'a bouleversée les jours que je l'ai compris, que c'était ça en fait, et que j'avais régulièrement cette sensation, et que j'avais pas nommé, que j'avais pas identifié, qui est bon, là à ce moment j'ai la peur. Et ça c'est libérateur, parce qu'à partir du moment qu'on identifie un sentiment, une sensation dans les corps, on peut faire quelque chose avec. Donc je sais que j'ai peur, donc je vais identifier pourquoi j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que cette peur elle a droit d'exister, est-ce qu'elle a du sens, est-ce qu'elle a sa place, est-ce qu'elle n'a pas sa place, est-ce qu'en fait c'est un règlement interne à le faire pour aller pour la surmonter. Donc ça donne des noms aux choses.
Et cette démarche intellectuelle, mais aussi d'ordre physique, tu l'as fait dans ta langue natale, le portugais, ou tu l'as fait en français, ou les deux, et qu'est-ce que ça change ?
Ben voilà, donc en fait, j'ai commencé ces projets, c'était très marrant parce que c'était un projet que j'avais commencé au sein de mon master d'écriture à Aix-Marseille. Où j'avais trois sentiments, j'avais envie d'explorer trois sentiments, et au début je les ai fait trois nouvelles en portugais, et je voudrais traduire en français. Et cette traduction, donc c'est ça que je viens de te raconter, ça m'a montré que ça a changé beaucoup de choses. Et j'avais quand même, ça s'est passé quelque chose pendant les confinements, pendant les Covid, j'ai vécu beaucoup de choses, et je savais plus comment je me sentais, je savais plus qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps. Donc j'ai commencé à écrire d'une façon très intime, très personnelle. J'ai sens ça, j'ai sens ça, j'ai sens ça, en essayant de décrire les sentiments. Là, c'était à ces moments en portugais. Mais j'avais cette envie de passer en français pour essayer de comprendre est-ce qu'on ressent différemment dans des langues. C'était la continuation donc de ma réflexion de master. Puisque la traduction à ces moments-là, la question de mon master, c'est est-ce qu'on ressent la même chose dans des langues différentes, en sachant qu'il existe des sentiments intraduisibles, notamment les mots saudade en portugais, qui c'est pas traduisible dans une autre langue, et qui c'est un sentiment différent même du Portugal et du Brésil. Dans mes recherches, j'ai découvert que les Portugais, ils ont une notion que la saudade, c'est une mélancolie, c'est très mélancolie, c'est lié au mal du pays. Pendant qu'un portugais du Brésil, saudade, c'est entre la nostalgie et la mélancolie, quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Il a un bonheur nostalgique, mais vraiment, c'est pas triste à 100% comme sentiment. Il est très aigre-douce. Et en fait, je me demandais donc. Comment est-ce qu'on invente des sentiments, vu qu'en fait, il est culturel, c'est un besoin culturel. Comment on le ressent, quand on les traduit, qu'est-ce que ça donne? Donc, la traduction du sentiment de saudade, parce que j'étais obligée de les faire pour Bois des Pandora, c'était très intéressant, parce que je pense que c'était très fidèle au sentiment. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre un sentiment pour son explication, il faut l'identifier, il faut les sentir. Donc l'objectif de ces poèmes spécifiquement, c'est d'apporter ces sentiments dans les gens et que la personne dise « Ok, là maintenant, je comprends qu'est-ce que c'est la saudade. » Je comprends, en tout cas, à partir de son corps, je peux comprendre où il est et possiblement, ça existe en français, c'est seulement qu'on ne donne pas un nom. Et est-ce qu'il n'y a pas un récent... Je ne sais pas, c'est très fou comme un questionnement.
Oui, non, mais c'est à la fois complexe, riche, et effectivement, ça mériterait peut-être de lire ton mémoire de fin d'études.
Bon, lire mon mémoire, je ne pourrais pas, parce qu'il y a quand même 100 pages, mais je pourrais lire un extrait des Bois des Pandora, si tu veux, je l'ai ici.
Oui, avec plaisir. «
J'ai ça. Étoile pointue, pivote dans mon crâne, pulsant, et pulsant à tisse, matière grise. J'ai ça. Tressaillement. Pique, pense, veine, peu. J'ai ça. Oreille dorée, attentive, assoiffée de jus informatif. J'ai ça. Yeux actifs, écarquillés par la faim, gourmand, de dessert qui n'arrive pas. J'ai ça. Corps vibré, désirant d'être rempli par un aliment qui les complète et calme l'inconfort de morceaux qui lui semblent manquer. J'ai ça. Curiosité. J'ai ça. Odeur violette, fraîche lavande dans mon cuir doux. J'ai ça. Or fondu qui embrase, sang, yeux. J'ai ça. Vent, enroule mon bras, caresse ma peau. J'ai ça. Nature accouchée lumière, infinitude des couleurs, éclat, ombre. J'ai ça. Dégèle, nuit liberté. Membres bougent confortables dans leurs fonctions. J'ai ça. Pucée de la terre, pieds déchaussés avancent, rapides, par prés et rochers. J'ai ça. Énergie, irradie du sommet mental, au plus profond, sol, un moi. J'ai ça. Vitalité.
Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar.
J'ai envie de parler encore de ces deux langues, le portugais et le français. Est-ce que tu travailles de la même façon des textes quand tu écris en portugais ou en français ? Y a-t-il une différence en matière de méthodologie, de thématique, de genre ? Est-ce que tu vas plutôt écrire de la fiction en français ou de la poésie en portugais ? Voilà où je voulais en venir.
Alors, c'est génial. Je ne sais jamais dans quelle langue je vais écrire. Ça me vient dans les moments où je commence à écrire. Il y a des fois que j'ai écrit pour exprimer des choses qui j'ai besoin vraiment de me faire sortir et qui j'ai besoin de faire sortir de moi. Et ça me vient en portugais. Mais il y a des moments que ça me vient en français. Il y a des moments que je pense que les français, ils viennent pour clarifier, m'expliquer des choses. Il y a un poète, chanteur brésilien qui s'appelle Caetano Veloso, et il avait dit que l'allemand, c'est une langue pour philosopher. Je ne peux pas dire de l'allemand parce que j'ai une connaissance très basique, mais pour moi, les français, ça m'explique des choses, ça m'éclarifie des choses. Donc, j'ai écrit la fiction, la poésie, mon journal intime, quoi que ce soit, dans les deux langues, quelquefois mélangées. Donc, quelquefois, je commence en portugais et les mots suivants, c'est en français. Et la phrase suivante, c'est en français. Et les paragraphes suivants, c'est en français. Et après, j'arrive plus à m'exprimer dans cette langue et je retourne dans les portugais. Donc, peu importe les gens, il n'y a pas un choix des genres. Et quelquefois, il n'y a même pas un choix des langues. C'est ce qui me vient dans ces moments-là.
On peut dire que c'est l'identité de ton écriture.
Quelquefois, par exemple, pour la revue, ça c'est très intéressant, pour 8 ou 80, j'ai écrit majoritairement en français directement. J'ai dit majoritairement parce qu'il y a des moments, comme je dis, que j'arrive pas, je sais pas pourquoi. La langue, elle veut pas me parler, elle veut pas être exprimée. Les sujets dont je parle, ils veulent pas s'exprimer dans cette langue-là. Mais on peut retrouver quand même une façon d'écrire, je pense, qu'on voit que c'est pas un... Je sais pas si on voit que c'est pas un natif français qui écrit, que ce n'est pas un natif, mais on voit qu'il y a une proposition différente en tout cas. J'apporte quand même toujours un peu du portugais là-dedans, comme je t'ai dit, soit par les détournements des phrases, pour l'imposition de la syntaxe en portugais dans le français. Mais il y en a quand même quelque chose qui me nourrit énormément entre ces deux langues. Je n'ai pas forcément des méthodologies différentes. Il y a des choses que j'exprime qui est en portugais et je ne sais pas dire qu'est-ce que c'est. C'est vraiment les besoins du moment. Et il y a des choses qui me viennent qui est en français. Et du coup, je reviens sur ce que j'avais dit. Quand j'ai fait la traduction, en tout cas, du portugais vers les français, puisque j'ai fait très rarement du français vers le portugais, pendant que je le fais, ouais, je le fais de temps en temps, mais plutôt du portugais vers le français, j'ai vois que les français m'expliquent des choses. Donc, en fait, dans mes études, j'ai compris que les portugais, c'est une langue quand même très baroque. On est très exagéré, c'est très sentimental. Et les français, quelquefois, ils ne te permettent pas. Ils t'obligent, et là, quand je dis qu'ils t'obligent, c'est vraiment la langue, c'est les structures de la langue qui t'obligent quelquefois à clarifier des choses, à mettre des points sur les i. Tu ne peux pas être ambigu pendant que les portugais me permettent d'être ambigu si je veux, et je peux jouer avec ça. Donc les français, pour moi, c'est vraiment cette langue de la clarté et de l'explication, de la compréhension, pendant que les portugais, c'est une langue très émotionnelle, très sentimentale. Mais je pense que la traduction, ça apporte un nouveau sens. Je comprends des choses qui étaient mises dans une couche très invisible. Donc notamment un philosophe allemand qui écrit un texte qui s'appelle La tâche du traducteur, et il dit qu'en fait la traduction, c'est pas une copie de l'original, mais en fait c'est un nouveau original, parce qu'il propose vraiment des choses qui l'original qui existaient en tout cas dans l'original, mais qui étaient cachées puisque cette langue-là, elle ne permettait pas, et cette autre langue, elle va mettre la lumière sur d'autres questions, et on va comprendre un autre texte, Walter Benjamin, l'écrivain philosophe allemand qui a écrit ces textes, et c'est magnifique parce que je m'appuie vraiment sur ça. Pour moi, c'est vraiment un nouveau original à chaque fois.
Et justement, puisque le portugais est peut-être plus mélodieux, moins tangible, te dirige peut-être plus vers la poésie, tandis que le français t'indique le chemin de la fiction ?
Non, pas forcément. En fait, je me permets beaucoup en poésie, en français, justement, parce que la poésie, on peut se décrocher du sens, et on peut créer d'autres choses, on peut... C'est un rapport à forger une sensation dans la personne, je pense. Pendant que la fiction, on a besoin de maîtriser d'autres choses que la poésie ne demande pas. Donc en fait, une fiction, on a besoin de maîtriser la narration, genre la construction narrative du texte. Et là, il faut que ça soit très précis. Il y a des moments qu'il faut que ça soit très précis. Après, moi, j'ai mis beaucoup de poésie dans ma fiction aussi. J'adore des images. Genre, je pense que là, oui, dans la question que tu m'as demandé, qu'est-ce qui constitue mon texte, c'est des images. Des images et des sensations. Je travaille beaucoup avec ça. Je cherche à donner au lecteur l'image la plus claire possible de ce que moi, je suis en train de voir dans ma tête. Mais parce que j'ai une imagination très puissante et très détaillée. Et des sensations, donc de faire passer par tous les cinq sens, même les six sens on peut dire, les sensations du texte, pour que ça soit presque touchable. Pour moi, l'écriture est vraiment quelque chose qui est dans les corps, notamment on a pu comprendre par Bois de Pandora, mais la fiction aussi elle passe dans ces sens-là, puisque je vais décrire les sensations, les émotions de mes personnages d'une façon très riche et en donnant l'odeur, la musique, les sons, les bruits, donc les textures, j'essaye vraiment de toucher à tout ça.
Donc c'est une écriture sensuelle.
C'est sensoriel.
Je me demandais depuis quand tu écrivais.
Ça, c'est la question. J'écrivais avant d'écrire parce que je m'inventais des histoires avant de savoir écrire. Et mon plus grand rêve des gamines, c'était d'apprendre à écrire, donc à lire et à écrire. Parce que j'imaginais des histoires, donc je prenais des livres, j'imaginais des histoires et tout. Donc j'écrivais à ces moments-là dans une oralisée, dans une idée des contes même. Et dès que j'ai appris à écrire et à lire, j'ai plus arrêté. Donc j'ai commencé à écrire très très tôt. J'écrivais déjà des poèmes, donc très drôles. J'ai retrouvé un poème quand j'avais 10 ans sur les sentiments, justement. Et j'ai dit waouh, ça n'a pas parti, quoi, ça reste. Après, ça fait pas si longtemps que j'ai écrit en faisant ça mon métier. J'ai écrivé en tant que journaliste et en plus j'écrivais dans un journal qui était orienté vers le tourisme, donc j'avais beaucoup de liberté en écriture. Ça c'était en 2014. Mais l'écriture, genre ça me mettait dans une petite boîte quand même. Genre, j'avais pas autant de liberté d'inventer des mondes, d'inventer de la poésie comme j'avais envie. Et en 2018, j'ai publié une première anthologie avec 6 autres écrivaines sur des voyages, sur les 10 histoires des voyages toutes seules. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, en fait, j'ai vraiment envie de partir dans d'autres types d'écriture. J'ai plus envie d'être accrochée à la réalité que les journalistes m'imposaient, puisqu'on ne peut pas inventer dans le journalisme. Et du coup, je commençais à écrire, je commençais à me donner plus de liberté à ce moment-là, mais je les faisais déjà. Mais ce n'était pas un métier, pour moi en tout cas. C'était encore du rêve.
Donc tu renouais finalement à ce qui a fait ta nécessité, enfant, de construire des mondes imaginaires. À ce moment-là, tu t'es permise, après l'écriture journalistique, de renouer avec ce désir d'enfant.
En tout cas, de les prendre au sérieux. C'était plus un truc, parce qu'en fait ça me frustrait beaucoup parce que j'ai continué à écrire quand même, mais c'était toujours des petits textes, c'était toujours des textes que je commençais, je finissais jamais. Et en fait j'avais ces rêves de faire des études pour devenir écrivaine, mais ça n'existait pas encore, je pense. Mais aujourd'hui on a quand même des masters en écriture créative, c'est les masters que je l'ai fait. Mais les journalismes, je l'ai fait justement parce qu'il n'y avait pas une école, une université devenir écrivain. Et du coup, j'ai fait les journalistes, pour moi, c'est les plus proches. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû peut-être faire littérature, c'était plus proche. Ça irait me nourrir plus dans ce sens-là. Mais les journalistes, ça m'a permis de m'autoriser dans l'écriture d'une façon très plurielle. Je pourrais vraiment avoir l'autorisation qu'on a besoin pour écrire. Mais oui, en fait, finalement, j'ai découvert qu'il existait donc ces masters en écriture créative et je me suis dit, bah, c'est ça que je rêve de faire toute ma vie, je veux le faire. Et c'est très drôle parce que d'un côté, ce que je fais aujourd'hui, que ce sont les ateliers d'écriture, l'accompagnement en écriture, ça vient de ces rêves, de pouvoir aussi proportionner ça à d'autres personnes. C'est-à-dire, il n'existait pas une façon d'être écrivain, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour se développer là-dedans, pour développer cet outil. Parce que pour moi, au début, je pensais que l'écriture, c'était un don. Et là, j'ai compris qu'en fait, don, ça n'existe pas. C'est un outil et qu'on développe et c'est accessible à tout le monde. Genre, tout le monde peut écrire. Tout le monde peut s'exprimer dans l'écriture. Mais quelquefois, on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment transmettre ce qu'on a à transmettre et les mettre d'une façon que ça nous plaît quand même, que ça nous plaît à nous en tant qu'écrivain, je veux dire, parce que bon, plaire à lecteur, c'est encore une autre réflexion.
Quand tu disais que le journalisme t'avait permis l'écriture plurielle et du coup de te rapprocher tout de même de l'écriture créative, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors moi, j'étais dans un journal des tourismes, donc c'est que c'était les fans de tout ça, c'est qu'on était quand même invités à voyager et on racontait. On racontait sur les pays, sur la destination. C'était pas une écriture journalistique très carrée, dont on raconte les faits purement. Donc, tel jour à Marseille, ça s'est passé telle chose. Et du coup, ça c'est déjà très libre dans ce sens-là, puisque je pouvais quand même créer un décor, créer des images, des choses qui me fascinent d'une façon générale dans l'écriture, donner du sens, je veux dire sensoriel. Donc ça, il y avait cette liberté quand même. Après, c'était un journal commercial, donc B2B. Donc, il y avait aussi tous les côtés factuels, présenter des data, les côtés interview aussi que j'adorais. C'était quelque chose que je ne savais pas que j'aimais autant, puisque ce n'était pas des choses que je jouais quand j'étais petite. Genre, ça ne faisait pas partie de mon univers en tant qu'enfant. Mais cette découverte de texte qui vient à partir d'un échange, d'un interview et tout, j'ai compris que ça me vient dans mon écriture aujourd'hui, parce que c'est à partir d'échanges avec des gens autour de n'importe quel thème qu'en fait la construction philosophique ou même intellectuelle d'un thème qui va devenir quelque chose d'autre. Donc ça... Aujourd'hui, je comprends comment les journalismes, il est très présent dans mon écriture. Principalement, quand je parle d'écriture en soi, ça passe pour un côté très journalistique. Genre, je vais faire des articles, je vais faire des éditos pour la revue. On fait des éditos, je m'éclate et je dis waouh, c'est les côtés journalistiques que j'ai laissés, qui fait plus partie, mais qui en fait qui continue à faire partie de mon écriture. Donc en fait, ça m'a nourri d'autres façons. Il avait un côté imaginaire. Que je pouvais donner voix à partir de ces textes des destinations, mais ça m'a appris à m'exprimer d'autres façons aussi qui aujourd'hui sont quand même très présentes dans mon écriture d'une façon générale.
Qu'est-ce qui t'inspire ? On a compris le corps, les sentiments, c'est alors, tout ou bien autre chose encore ?
Je peux pas dire que j'avais peur de cette question, mais je la trouve tellement large. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'inspire pour l'écriture ? C'est tout. En fait, c'est tous les rapports qu'on a, toutes les discussions qu'on a. C'est de regarder un film, c'est d'aller dans une exposition. Quelquefois, quand je me sens à plat, j'ai plus rien. C'est un peu de revivre, de se remettre dans la vie normale pour avoir des nouvelles idées, pour se ressourcir.
Ressourcer.
Je pourrais dire qu'il y a un sujet que j'ai identifié plus récemment, c'est la question de l'appartenance. C'est la question du rêve, de l'imaginaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a cette question des sensations, des images. Après, pourquoi on écrit, ça passe aussi pour cette inspiration. Donc, pourquoi on écrit pour nous ? Donc, qu'est-ce qui m'inspire à écrire ? Je pense que c'est ces côtés-là. Mais qu'est-ce qui m'inspire à partager ça ? Ça, c'est un autre côté. C'est un côté des vouloir apporter un peu des magies, des rêves, des possibilités, des fantasmes de la vie, des transmuter la vie. Bref, je pense qu'inspirer, c'est tellement large. J'avais même envie de regarder l'étymologie du mot.
Quelle est donc l'étymologie du mot « inspiration » selon le dictionnaire de l'Académie française ? Il nous vient du XIIe siècle, emprunté du bas latin « inspiratio », souffle, inspiration. En physiologie, on sait que c'est l'action de faire pénétrer l'air dans les poumons, l'inspiration et l'expiration. Mais c'est aussi l'action d'inspirer, ce qui inspire un mouvement, un dessin, D-E-2-S-E-I-N, une pensée. C'est un souffle divin qui anime l'esprit d'une sorte de transport et pousse à quelque action, suggère quelque discours. Être saisi d'une inspiration divine, inspiration du ciel, de Dieu, d'en haut, l'inspiration des prophètes, des auteurs sacrés, des inspirations surnaturelles. Mais encore, autre définition, c'est un élan créateur qui anime l'écrivain ou l'artiste. Attendre, chercher l'inspiration, puiser son inspiration dans l'histoire ancienne, céder à l'inspiration, avoir de l'inspiration, manquer d'inspiration, source d'inspiration, écrire, composer d'inspiration. Par extension, on dira même que ce qui nourrit une œuvre littéraire ou artistique, l'influence qui s'exerce sur elle ou qu'elle reflète. L'inspiration antique à l'époque de la Renaissance, une musique d'inspiration orientale. Autre définition encore, c'est l'impulsion, le mouvement intérieur qui porte à accomplir tel ou tel acte. Idée, intuition qui vient spontanément à l'esprit. Sous le coup d'une inspiration subite, suivre son inspiration, obéir, s'en remettre à l'inspiration du moment, avoir d'heureuses inspirations. Et enfin, c'est un conseil, avis par lequel on fait naître dans le cœur, dans l'esprit d'une personne, un sentiment, une résolution, un dessein, toujours D-E-2-S-E-I-N. Agir sous l'inspiration de quelqu'un, suivre l'inspiration de quelqu'un, c'est par votre inspiration que j'ai agi. Je lui dois cette heureuse inspiration. Et nous furent Samantha et moi-même si inspirés que la conversation s'est poursuivie et donnera lieu à une prochaine émission, un prochain podcast, où nous aborderons la construction narrative qui va de surprise en surprise. La cuisine littéraire et poétique de Samantha avec, comme l'un des ingrédients principaux, le maniement de différentes langues. Encore une fois. Il y sera question de connexion, de rituel. Enfin, nous évoquerons les ateliers d'écriture de Samantha, riches par leur plurilinguisme. À très vite. Et merci à Radio Galère.